Radio Prague International en français, les informations.
Bonjour, un couple soupçonné d'espionnage dans l'affaire de Verbitice. Les chefs du renseignement militaire de l'OTAN réunis à Prague la semaine dernière et puis un deuxième camp destiné aux réfugiés en construction à Prague. Selon la station de la radio tchèque Radio Journal et l'hebdomadaire Respect, la police tchèque soupçonne un couple d'espionnage en raison de leurs liens avec des agents du renseignement russe responsables des explosions de Verbietice en 2014. Les enquêteurs estiment que Nikolai Chapochnikov, un ancien soldat russe, détenteur d'un passeport tchèque, et sa femme Elena ont écrit des courriels concernant des contrats d'armement sensibles au général de division Andrei Averianov du GRU, dont l'unité est soupçonnée justement d'être responsable de ces explosions d'un dépôt de munitions à Verbietice il y a 8 ans. Ces explosions avaient tué 2 personnes et causé d'importants dégâts matériels. Nikolai Chapochnikov a également rencontré ce fameux Averianov au Portugal, selon la fille de ce dernier, interrogée par les journalistes en Moravie du Nord. Une réunion des chefs de service de renseignement militaire des pays membres de l'OTAN et des pays partenaires a eu lieu la semaine dernière à Prague. Une annonce faite ce lundi par un porte-parole du service de renseignement militaire tchèque. Pour des raisons de sécurité, l'information n'a été communiquée qu'après l'événement. Les directeurs des services de renseignement se sont réunis dans le cadre de la réunion du comité de renseignement militaire MIC de l'OTAN, actuellement présidé par la République tchèque. Le développement de la coopération et de l'échange d'informations en matière de renseignement entre les pays de l'Alliance et les pays partenaires est l'une des priorités de la présidence tchèque. Les sapeurs-pompiers de Prague construisent ce lundi un deuxième camp destiné aux réfugiés en provenance d'Ukraine dans le quartier de Malachice, d'une capacité d'accueil de 150 lits. Ce campement comprendra une cantine et des douches. La construction devrait être terminée d'ici la fin de la journée. Un premier camp de réfugiés dans la capitale avait été édifié à la mi-mai dans le quartier de Troya. Les 2 dispositifs sont principalement destinés aux réfugiés roms qui attendent la régularisation de leur situation. En République tchèque, la fréquentation des établissements culturels a chuté de plus de moitié au cours de la première année de la pandémie. Selon les dernières données de l'Office des statistiques tchèques, le nombre de personnes visitant des monuments historiques ou des salles d'exposition a fortement baissé en 2020 en raison des restrictions gouvernementales mises en place pour lutter contre la propagation du Covid-19. En 2019, un visiteur tchèque moyen s'était rendu au moins 4 fois dans des établissements culturels. Le secteur de la culture le plus touché, comme les théâtres et les musées, a perdu plus de 6,5 milliards de couronnes en 2020. Et puis la 30e édition du festival d'aviation Aviatecka Pouť a attiré environ 25 000 personnes à l'aéroport de Pardubice ce week-end. Une 60aine d'avions, dont des hélicoptères et des machines historiques, étaient exposés dans les airs et au sol. Le public a notamment pu profiter des numéros de voltige aérienne de Félix Baumgartner avec un hélicoptère BO-105, le Sea Fury, un avion de combat à hélice qui a servi dans la Royal Navy, a également attiré l'attention de nombreux spectateurs. La météo a toutefois perturbé le programme de samedi, où les organisateurs ont dû modifier légèrement ce programme en raison de fortes rafales de vent et de pluie. On termine par un mot de météo. Mardi, jour de fête des camélas, hausse progressive des températures qui devrait se poursuivre tout au long de la semaine. Le ciel sera clair avec des passages nuageux. C'est la fin de ce bulletin d'information. Restez avec nous sur Radio Prague International. Tout de suite, la suite du programme présenté par Magdalena Rozinkova.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour et merci à toutes et à tous d'être à l'écoute de ce magazine d'actualité de Radio Prague International. Au sommaire ce lundi, les adoptions internationales. 700 enfants tchèques ont été adoptés par des familles à l'étranger depuis 22 ans. Nous vous en dirons plus. Place évidemment à l'hockey sur glace. L'équipe nationale tchèque a décroché le bronze dimanche au Mondial disputé en Finlande. Dans la seconde partie de cette émission, il sera question du spectacle tchéco-franco-slovaque Icarus, présenté au Festival international de danse Tanec Praha. Très bonne écoute. Chaque année, une trentaine d'enfants tchèques sont adoptés à l'étranger, principalement au Danemark, en Allemagne, en Italie et dans les pays scandinaves. À l'inverse, le nombre d'enfants étrangers recueillis par des Tchèques est extrêmement bas. En 2019, seuls 5 enfants originaires de Slovaquie, de Russie et du Congo ont été placés dans des familles tchèques. En République tchèque, les couples candidats à l'adoption souhaitent, dans la plupart des cas, accueillir un nourrisson. Les enfants plus âgés, et notamment ceux qui ont des besoins spécifiques, ont peu de chances de trouver une famille d'accueil. De même, de nombreux enfants abandonnés restent en institution à cause de leurs origines ethniques, comme le reconnaît Zdeněk Kapitán. Il dirige l'Office pour la protection juridique internationale des enfants, institution basée à Brno, qui sert de médiateur dans les processus d'adoption d'enfants tchèques à l'étranger.
Il s'agit souvent d'enfants de parents affectés d'une dépendance qui présente le syndrome d'alcoolisme fœtal. Notre client typique est un garçon âgé de 4 ans et originaire de la région d'Oustina de l'Abem. Nous ne nous intéressons pas aux origines ethniques des enfants, mais il est vrai que les Roms prédominent parmi ceux que les familles adoptives tchèques ne veulent pas.
Roms handicapés ou malades, les enfants tchèques ont été près de 700 au cours des 22 dernières années à avoir trouvé une famille adoptive à l'étranger, notamment au Danemark, mais aussi en Allemagne, en Suède, en Espagne, en Autriche ou encore en Islande. Roman Suda est directeur du foyer d'enfants de Nepomuk, près de Plzeň, en Bohême de l'Ouest. Son établissement a organisé le placement de 2 enfants dans une famille installée dans le sud de l'Italie. On l'écoute.
Nous avons accueilli dans notre foyer 2 enfants, frères et sœurs, âgés de 5 et 6 ans. Au bout de 9 mois, nous avons été contactés par l'Office pour la protection juridique internationale des enfants qui avait trouvé pour eux une famille adoptive à l'étranger. Pendant plusieurs mois, nous avons préparé ces enfants pour le départ à l'étranger tout en collaborant étroitement avec la famille d'accueil. Pendant cette période, les enfants ont appris les bases de l'italien. Nous sommes restés en contact avec leurs parents adoptifs italiens. Ils nous écrivent de temps en temps et ils nous envoient des photos pour nous dire que les enfants se portent bien.
L'année dernière, 22 enfants tchèques, 16 garçons et 6 filles, âgés pour la plupart entre 1 et 5 ans, ont été adoptés par des familles à l'étranger. Zdeněk Kapitán précise.
En 2021,
nous avons réussi à placer dans des familles d'accueil à l'étranger plusieurs fratries. C'est très compliqué du point de vue des enfants et des parents aussi. Accueillir plusieurs enfants demande beaucoup de patience et d'enthousiasme de leur part. Il est triste que des enfants tchèques ne puissent pas trouver de famille adoptive dans leur pays d'origine et restent dans des foyers. Nous sommes contents de pouvoir les aider. Placés dans une famille adoptive, ils ont de fortes chances de réussir dans leur vie professionnelle et privée.
Selon le chef de l'Office pour la protection juridique internationale des enfants, la République tchèque fait partie des pays aux critères d'adoption très stricts. En cas d'adoption internationale, les règles sont, d'après lui, encore plus sévères que les conditions nationales de placement en famille d'accueil. En dépit du désintérêt des familles tchèques pour accueillir d'enfants étrangers, l'Office a remarqué depuis mars un nombre croissant de demandes concernant les possibilités d'adoption d'enfants réfugiés non accompagnés en provenance d'Ukraine. Or, comme le remarque l'Office sur son site, dans ce cas précis, l'adoption n'est pas une bonne solution, la priorité des autorités étant de préserver l'intégrité des familles ukrainiennes et de retrouver au plus vite les proches des jeunes victimes de la guerre. Vous écoutez Radio Prague International, on passe au sport. Après un début de mondial finlandais assez terne, l'équipe nationale tchèque de hockey sur glace a finalement terminé à une belle 3e place. Alexis Rosenzweig.
Un 3e tiers-temps de folie dans cette petite finale contre les Américains. Et voilà le Narodni Team en bronze après une compétition en Dantsi pour une équipe tchèque pour la première fois entraînée par un étranger, le Finlandais Kari Jalonen. Mené 3-1, les Tchèques ont réussi à revenir au score puis à enchaîner 5 buts, dont un hat-trick signé Pasta, David Pasternak en très grande forme contre des Américains qu'il côtoie régulièrement en NHL. On l'écoute. Je suis super content et fier des garçons que j'ai rencontrés ici. À part la demi-finale pas trop réussie, on a fait du gros travail. Je connaissais beaucoup de coéquipiers du temps où on a joué en équipe de moins de 18 ans et ils ont fait de gros progrès depuis. Ramener une médaille, ça faisait 10 ans que ce n'était pas arrivé. J'espère que ça renforcera la confiance du hockey tchèque pour faire en sorte de jouer régulièrement au moins les demi-finales dans les prochaines compétitions. Avant l'arrivée de Pasta en Finlande, l'équipe tchèque avait subi l'une des plus humiliantes défaites en phase de poule en s'inclinant devant l'Autriche. Le mondial de hockey se joue tous les ans, donc ce n'est pas un événement d'une importance équivalente à celle d'un mondial de foot. Mais c'est une question de prestige et la décennie de disette côté tchèque commençait à être longue, selon David Krejci, le centre des Boston Bruins. On va célébrer ça comme il se doit, mais c'est difficile de réaliser ces choses sur le coup. 10 ans après, on parle toujours du bronze de 2012. On va réaliser plus tard ce qu'on vient d'accomplir. On va d'abord fêter ça maintenant et je m'en réjouis. Le championnat du monde remporté à domicile par la Finlande aura également marqué une étape décisive, bien que non sportive pour l'équipe tchèque. Pour la première fois en effet, depuis l'indépendance de la Tchéquie, les maillots étaient floqués du nom Česko et Tchéquia en anglais était le nom officiel du pays, non plus Czech Republic, un détail qui a son importance. 6 ans après l'officialisation du nom Tchéquia à l'ONU, pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024, une réunion au sommet a été organisée entre autorités sportives et diplomates pour déterminer comment uniformiser ce nouveau nom sur les futurs maillots. Česko en tchèque ou Tchéquia en anglais, ce sera désormais à la direction du comité olympique tchèque de trancher. En tout cas, les journalistes américains ont déjà compris qu'il fallait utiliser le mot Tchéquia. And it's 5-3 Tchéquia.
La 34e édition du Festival international de danse Tanec Praha a commencé ce samedi à Brno en Moravie du Sud par un spectacle des performeuses brésiliennes, portugaises et slovènes. Le festival se poursuit jusqu'au 29 juin dans 25 villes et communes du pays. La chorégraphe Marie Gourdin présente au festival le spectacle tchéco-franco-slovaque Icarus qui réunit des adolescents amateurs et des danseurs professionnels. Marie Gourdin a expliqué en 2021 au micro de Radio Prague International comment la danse lui permettait de lier son pays natal, la France, avec la République tchèque où elle est maintenant installée depuis plus de 10 ans. Nous vous proposons cet entretien en rediffusion.
Alors le lien, il s'est fait d'une certaine manière assez naturellement parce que dans le collectif auquel j'appartiens ici à Prague, Tirlet, nous sommes 2 Français et 2 Tchèques. C'est-à-dire que nos cultures et nos inspirations se sont tout de suite attirées et mélangées. Donc ça, c'était une façon d'entretenir cette binationalité, enfin ou du moins cette rencontre. Ensuite, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs de la danse à Prague qui sont français, que ce soit à Brno ou à Prague. Donc ça m'a fait un lien et ces personnes-là invitaient des chorégraphes français. Donc ces personnes, c'est Pierre Nadeau et Marie Kinski par exemple, qui invitaient des chorégraphes français à travailler avec eux ou avec leurs étudiants ou dans leur festival. Et du coup, j'ai rencontré des chorégraphes français par ce biais. Mais mon travail était vraiment cantonné à la République tchèque pendant des années. C'est-à-dire que c'était déjà un énorme challenge que de faire une place en tant que Française à Prague sur la scène tchèque. Donc cette année, ou depuis 2 ans maintenant, j'entame un processus où j'ai créé une compagnie en France aussi, tout récemment, qui s'appelle Matière Mobile. Et donc maintenant, je vais commencer à faire des coproductions entre la compagnie française et le collectif tchèque, plus précisément à Lyon. Donc à partir de cette année, il y a des vrais ponts qui se forment.
Okay. Et justement, vu que vous avez pratiqué la danse donc en France et en République tchèque, est-ce que vous voyez des points communs entre l'art de la danse dans les deux pays ou alors des différences ?
Les scènes tchèques et les scènes françaises sont assez différentes à cause de leur histoire, c'est-à-dire qu'en France, il y a une démocratisation de la culture et de dans les régions et un soutien de la culture depuis des années et des années, ce qui en République tchèque, à cause du régime communiste et finalement la danse contemporaine et l'espace pour la danse contemporaine n'existent que depuis 30 ans ici, c'est-à-dire depuis la Révolution, enfin la chute du mur, la chute du régime. Donc ça a une histoire, les deux pays ont une histoire très différente qui influence évidemment les scènes encore aujourd'hui. Cela dit, je dirais qu'aujourd'hui la scène pragoise est très 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 dynamique, très active. Il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a une envie de faire qui est très forte, ce qui fait qu'il y a beaucoup de productions intéressantes et de très très bons danseurs.
D'accord, donc là vous êtes trois artistes à créer le spectacle Icarus. Comment est née cette collaboration franco-tchéco-slovaque ?
Alors la collaboration, elle est à l'initiative du festival Tanec Praha et du festival Divadelná Nitra en Slovaquie. Pour ce projet, ils font partie d'une aide et d'un programme européen qui s'appelle Bispectative. Bispectative, c'est un programme spécifique qui invite des chorégraphes à travailler avec des spectateurs ou des amateurs. En tout cas, ça invite à des projets participatifs. On appelle ça des projets participatifs. Et donc, eux-mêmes, ces deux festivals ont décidé de faire un projet tchécoslovaque. Parfois, ça peut être avec d'autres pays d'Europe, mais eux, ils ont décidé de mettre un cadre. Un projet tchécoslovaque avec des jeunes, des adolescents, même pré-adolescents, de 11 à 16 ans. Maintenant, c'est plutôt 13 à 18 ans parce que ça fait 2 ans qu'on travaille et qu'on a été très arrêtés par le Covid. Et du coup, ils ont mis un cadre. Et ensuite, ces jeunes, ils avaient le choix entre 5 chorégraphes tchèques et slovaques. Moi, je fais partie des artistes tchèques, même si je suis française. Et ils m'ont choisi, moi, pour être la chorégraphe du projet. Mais ils ont aussi choisi, parce que Jaro Winiarski était un des chorégraphes proposés, mais comme il est danseur aussi et interprète, ils ont choisi qu'on allait travailler ensemble. Et puis au début, on voulait travailler avec une troisième personne, une autre, qui n'avait pas un danseur, Dano Racek, qui est slovaque aussi, qui n'avait pas les disponibilités pour le projet, malheureusement, dans son emploi du temps. Et donc, j'ai décidé d'inviter Václav Kalivoda, qui lui est tchèque, qui est musicien, qui joue du trombone et qu'on vient de croiser tout à l'heure.
Vous présentez ce spectacle Icarus dimanche après-midi dans le cadre du coup du Salon du Livre. Quel message vous voulez faire passer à travers ce spectacle et quelle histoire est-ce qu'il raconte finalement ?
Ce spectacle, il est pour moi très important, surtout en ce moment, parce que justement, il est participatif et avec des adolescents. Et bien qu'il y ait une démarche vraiment artistique poussée, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est un projet participatif et avec des jeunes que on a fait une pièce qui serait moins exigeante qu'un spectacle avec des professionnels. On a vraiment essayé de pousser les choses dans le cadre évidemment de cette collaboration et puis avec le contexte du Covid, mais on a vraiment décidé de s'accrocher et de pousser les choses à un niveau qui pour nous est un niveau d'exigence qui est celui qu'on a avec nos autres pièces. Et il est important pour moi parce que c'est les jeunes qui ont décidé le sujet du spectacle, les artistes avec qui ils allaient travailler. Et c'est bien qu'à un moment, évidemment, nous, on a dû prendre des décisions aussi, des choix artistiques, les emmener dans une direction. Mais on leur a laissé un espace de parole continuellement dans toutes les étapes du travail. Et donc, c'est une façon pour eux de s'exprimer. À la fin du spectacle, on a des petites interviews. Des jeunes qui nous parlent du processus de création, de leur vision de la société aujourd'hui. Et en fait, pour moi, ça a une énorme importance que l'art ne reste pas juste entre les artistes, mais fasse preuve de communication avec des gens d'ouverture face à des jeunes qui sont à un autre endroit de leur vie, peut-être avec d'autres préoccupations. Parce qu'ils nous ont appris énormément. Moi, c'est ça que je retire, ce que je retire de plus important de ce projet, c'est ce qu'ils m'ont donné. Et donc, c'est pour nous une façon d'être ancré dans la société, de les laisser s'exprimer et donner, bien que de façon très abstraite, parce qu'on ne on n'illustre rien, mais de donner le résultat, de montrer le résultat de leur façon de penser, de leur travail, parce que c'est beaucoup de travail et on leur demande vraiment de travailler 7 heures par jour et d'être là. Aujourd'hui, on passe la journée dehors, donc la journée dans le vent. Bon, ben, ils y vont et ils sont motivés. Et donc, c'est ça pour moi le but de ce projet et le point le plus important.
Donc, ils ont choisi pour ce spectacle le thème de la liberté et des frontières. Pourquoi avez-vous choisi ce thème ?
Alors, c'est marrant parce que c'est arrivé avant la crise du Covid et pourtant, cette question, du coup, résonne aujourd'hui encore plus fort. Ils ont commencé à discuter sur leur façon d'être au monde aujourd'hui, sur leurs préoccupations. Et en même temps, c'était le 30e anniversaire de la chute du régime communiste. Et donc, les sujets se sont un peu entremêlés. Donc, j'ai choisi de m'inspirer du mythe d'Icare et de Dédale. Parce que dans leur discours, ils me disaient « oui, la liberté, c'est important, mais en même temps, quand on est trop libre et qu'on ne sait pas où aller ou qu'on a le choix entre trop de choses, toutes les choses qu'on voit sur Internet, mais aussi toutes les options qu'on a à l'école et tous les chemins qu'on pourrait prendre, ben parfois on se perd puis on ne sait plus qui on est. » Donc cette idée de l'identité quand on est adolescent, comment trouver son identité, mais en même temps rester libre, mais pas se perdre, m'a semblé bien résonner avec le mythe d'Icare qui en même temps prend un envol, cherche à monter de plus en plus haut et est complètement hypnotisé par cet envol, mais du coup chute et meurt. Bon, nous, on n'a pas été dans le dramatique non plus, hein. On a trouvé justement des solutions pour se dire qu'est-ce qui se passait si on changeait les mythes, qu'est-ce qui se passerait si on arrivait à réécrire notre vision du monde et pas rester ancré dans les carcans d'histoires qui ont des milliers d'années, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment ce sentiment qu'il faut changer, en fait, hein. Donc, c'est des sujets qui sont revenus de façon fréquente dans le travail.
Donc, votre première aura lieu dimanche. Pourquoi la présenter dans le cadre du Salon du Livre ?
C'est l'Institut français qui est un des partenaires du projet, qui a soutenu le projet et qui a permis qu'on invite un consultant pour nous aider à avoir un point de vue extérieur sur le projet, sur la dramaturgie, sur la chorégraphie. Cette personne, c'est un chorégraphe lyonnais, Jordi Galli, de Catalogne et de Lyon, qui est basé en France depuis de nombreuses années et qui travaille beaucoup avec en extérieur, avec des objets et dans des contextes participatifs. Donc ça m'a semblé être la bonne personne pour venir nous donner un regard extérieur, nous donner des techniques aussi pour être efficace quand on a un grand groupe et qu'il faut arriver à une forme que tout le monde connaît et tout le monde maîtrise. C'est ce qu'on se disait à l'instant. Donc il nous a donné pas mal de clés et c'était super intéressant de pouvoir inviter aussi quelqu'un de France et donc justement commencer ce pont entre Prague et Lyon que je cherche à développer. Et l'Institut français, grâce à son soutien, nous a permis d'inviter Jordi Galli. Et donc, c'était important pour eux, puisqu'ils vont participer au Salon du Livre, que la première puisse être liée à cet événement. Donc, on a fait en sorte que ça marche, voilà.
Et après, le spectacle, il va circuler en République tchèque. Vous allez le présenter ailleurs ?
Alors, le but, c'est de reproposer le spectacle à un nouveau groupe de jeunes à chaque fois. C'est-à-dire faire un workshop de 3 à 4 jours où on leur apprend tout ce qu'on a imaginé avec ce groupe de jeunes. Donc, il va falloir écrire un protocole très serré de comment on arrive au mouvement, comment on arrive à la manipulation des objets, comment on suit toute la dramaturgie du spectacle en 3 jours. Ce qu'on espère qui va être réalisable, c'est une démarche artistique et je pense que c'est hyper important d'inviter des gens qui sont jeunes, amateurs, dans une démarche artistique rigoureuse. Voilà, donc ça c'est le but après, c'est de rencontrer des nouveaux groupes et donc il va falloir trouver des lieux qui nous accueillent, qui ont aussi ce genre de démarche. Ce qui ne va pas être tout à fait évident, donc peut-être qu'on ne va pas jouer autant de fois que un spectacle qui serait facile à présenter à chaque fois.
Et ça va circuler qu'en République tchèque ou ailleurs en Europe aussi?
Est-ce que ça va circuler qu'en République tchèque? Eh ben, on espère que non. C'est-à-dire que le programme Bispectatif, c'est vraiment un programme européen avec plein d'acteurs de différents pays, acteurs culturels. Donc on aimerait bien jouer ailleurs. Maintenant, il y a quand même la barrière de la langue. C'est-à-dire que moi, je parle tchèque et donc on peut jouer en Tchéquie et en Slovaquie parce que Jarovinarski est slovaque et Václav Kalivoda est tchèque. Ensuite, on parle tous anglais. Donc je pense que ça serait possible d'emmener cette pièce dans des pays anglophones ou dans des écoles anglophones dans d'autres pays. Ensuite, je parle français et j'aimerais beaucoup pouvoir amener ce spectacle à Lyon ou en France en général. Maintenant, ça serait à voir comment adapter, soit avec un musicien et un danseur français sur place, soit trouver une façon d'avoir des interprètes, par exemple, qui seraient aussi actifs, pas que juste pour traduire, mais puisque c'est un projet collaboratif, et ben trouver des interprètes qui pourraient être vraiment impliqués dans le projet pour que ça soit vivant à tous les niveaux. Voilà, il y a peut-être plein de choses à imaginer. En tout cas, si on trouve les partenaires, et ben on sera prêt à trouver des solutions.
C'était la chorégraphe Marie Gourdin sur Radio Prague International. C'est la fin de notre émission en français. Elle vous a été présentée par Magdalena Hrozinkova. Merci de votre attention et à très bientôt de nouveau à l'écoute. Naslyšenou.